Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui, nous solennisons plutôt la fête Dieu, fête du Très-Saint-Sacrement, que déjà l'Église fête le jeudi. Pourquoi le jeudi, d'ailleurs ? Parce que le jeudi, c'est le jour du Saint-Sacrement, la Sainte-Cène, le jeudi saint. Ainsi, la fête du Saint-Sacrement est un jeudi. Le jeudi, souvenons-nous d'ailleurs, chaque jeudi, c'est le jour du Saint-Sacrement. Rappelons-nous, même si nous n'avons pas la messe de façon possible le jeudi, souvenons-nous que c'est le jeudi que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le Saint-Sacrement, le sacrement de nos autels. Et même, en même temps, juste après, il a donné à ses apôtres la grâce et le pouvoir d'être prêtres et de renouveler ce saint sacrifice de son offrande, de son sacrifice de la messe. Et aujourd'hui, nous solennisons cette grande fête du Saint-Sacrement, fête Dieu, la fête de Dieu, avec la procession qui suit la Sainte Messe. Comme vous savez, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, à qui le pape Urbain IV, je crois, ou Innocent III, a demandé de composer l'office, le bréviaire de ce jour, et la Sainte Messe ont été composés par ce grand docteur, docteur commun de la Sainte Église, pour magnifier le Saint-Sacrement. Et voici ce que, je ne vais pas tout vous lire, mais quelques passages des matines de la fête Dieu, le Corpus Christi. Ô festin précieux et admirable, salutaire et plein de toute suavité, que peut-il y avoir en effet de plus précieux que ce festin dans lequel on nous offre à manger, non la chair des veaux et des boucs, comme jadis sous la loi, mais le Christ, vrai Dieu. Quoi de plus admirable que ce sacrement ? En lui, en effet, le pain et le vin sont changés substantiellement au corps et au sang du Christ, tellement que le Christ, Dieu et homme parfait, est contenu sous l'apparence d'un peu de pain et d'un peu de vin. Il est donc mangé par les fidèles sans être aucunement mis en pièces. Bien plus, si l'on divise le sacrement, il demeure entier sous chacune des parties après la division. Les accidents demeurent. Les accidents subsistent dans l'espèce consacrée sans leur sujet ou substance, afin que la foi ait à s'exercer, alors que l'on reçoit invisiblement ce corps visible en soi, mais caché sous une apparence étrangère. Afin que les sens soient préservés d'erreurs, eux qui jugent d'accidents dont la connaissance leur appartient. Aucun sacrement n'est plus salutaire que celui-ci. Par lui, les péchés sont effacés, les vertus s'accroissent, et l'âme est engraissée de l'abondance de tous les dons spirituels. Nous retrouvons ces paroles de saint Thomas d'Aquin dans différents motets de la fête Dieu. O sacrum convivium, le tantum ergo, bien sûr le laudation que nous venons de chanter, grande strophe, grande hymne à la louange, à l'adoration, pour porter nos cœurs à l'adoration envers notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, caché, invisible, à nos sens. Il y a 2000 ans, quand notre Seigneur Jésus-Christ a parcouru la Palestine, ses contemporains pouvaient voir un homme. Certains, par la foi, ont vu plus qu'un homme. Certains sont restés à cette vision d'un homme. Ils n'ont pas cru que cet homme était Dieu aussi. Mais certains ont eu foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, dira bien sûr l'apôtre Thomas après la résurrection. Mais beaucoup appellent notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, Mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri, dit le centurion, pour son fils malade. Parole que d'ailleurs nous répétons avant la communion, en ne disant plus « mon serviteur est malade », mais « mon âme sera guérie ». Seigneur, domine non sum dignus. Donc voyez, la foi de ce centurion, notre Seigneur Jésus-Christ est ravi de voir la grande foi de ce païen. Il n'a pas eu la révélation, c'est un Romain, et pourtant, il a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus va guérir à distance son enfant qui est malade. La preuve en est que le centurion rentrera chez lui et l'enfant est debout. Il dit, mais à quelle heure s'est-il porté mieux? Et on lui dit, hier, à l'heure où il se rend compte avoir été présent auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi. Mais ici, maintenant, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, le bon Dieu nous demande une foi plus forte encore que durant le moment où il était présent avec ses apôtres, ses disciples, ses contemporains. Il demande une foi totale, parce que l'on ne voit plus un homme, on voit du pain, on voit un calice. On ne voit pas notre Seigneur Jésus-Christ, sauf extraordinaire. Il arrive que parfois, le bon Dieu, pour fortifier ou pour secouer la foi de ceux qui doutent, même des prêtres, on voit, un prêtre, une fois douté, avait cette inquiétude. Est-ce que c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ que je consacre à la messe? Et il doutait. Et le bon Dieu lui a permis de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ou des enfants dans l'assistance qui voient, pendant que le prêtre lève l'hostie, il voit un bel enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces faits sont, somme toute, assez rares. Mais s'ils existent, c'est pour nous montrer que c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une illusion. Bien que nos sens nous montrent que c'est du pain et du vin. Mais la foi nous dit, ce n'est plus du pain. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans son corps, dans son âme, dans son sang, dans sa divinité. Et le Concile de Trente, après saint Thomas d'Aquin, a inventé un mot pour rendre compte de la réalité, la transsubstantiation. Ça, c'est un terme du XVIe siècle. Pour contrecarrer Luther, qui niait la présence réelle, la transsubstantiation, changement de substance. Tandis que les accidents, comme on vient de l'entendre, par saint Thomas d'Aquin, les accidents demeurent. Le poids, la forme, l'odeur, le goût, etc. Donc les accidents demeurent, la substance change. À la différence de nous-mêmes, l'enfant du berceau à la tombe, la substance est la même. Les accidents demeurent, les accidents changent. Le poids, la taille, l'aspect extérieur, prenez des photos d'un enfant, d'un poupon et d'un vieillard, on dit, mais quelle ressemblance? Aucune. Quelques-unes parfois, mais très peu. Pourtant, c'est la même personne. Et la personne dira, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Alors que les accidents ont changé, la substance demeure la même. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Sainte Eucharistie, c'est tout le contraire. La substance est changée, les accidents demeurent. Donc le bon Dieu nous demande une grande foi, une très grande foi. Quand nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, pensons bien à cette parole du centurion et nous frappons la poitrine. Pourquoi? Parce que nous allions à la parole le geste. On est corps et âme. Par le geste, nous frappons la poitrine, c'est un geste d'humilité. Je ne suis pas digne que vous rentriez sous mon toit, dans mon âme, mais dites seulement d'une parole, et mon âme sera guérie. Notre Seigneur Jésus-Christ guérit nos âmes par la Sainte Communion. Ça, c'était une caractéristique de la Sainte Communion. Elle guérit nos âmes. Et aussi, c'est un gage de vie spirituelle. Bien évidemment, il faut recevoir notre Seigneur Jésus-Christ avec un esprit pur, qui n'a pas de fautes graves, mortelles, sur la conscience. Car saint Paul le dit bien, celui qui reçoit le corps et le Christ indignement reçoit sa propre condamnation. Donc saint Paul demande, c'est de l'épître de ce jour, il demande l'examen de la conscience, un retour sur soi-même pour voir en quel état est mon âme. Mais si mon âme est en état de grâce, alors il faut communier. Elle guérit nos infirmités. Et puis, chose admirable, c'est un gage de vie éternelle. C'est l'Évangile. Celui qui mange ce pain et boit ce sang, mon corps et mon sang, a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Gage de vie éternelle. Ayons soif, ayons faim de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis voyez aussi, ce sont des petits détails que je veux développer ce matin, mais des grandes choses finalement. Des détails qui paraissent dans la messe comme, non pas accessoires, mais on n'y pense pas forcément. Donc voyez, ce « Domine non sum ignus ». Et puis ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ vient nous restaurer de sa substance, de sa vie, de sa chair, de son précieux sang. Et qu'est-ce que le prêtre nous dit quand nous allons communier? Il dit à voix basse, mais il dit vraiment ces paroles. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Et nous répondons, rien. Il dit Amen aussi. Il ne faut pas dire Amen, parce que sinon le prêtre donne la communion, on dit Amen en même temps, donc ça bouscule un petit peu, et on peut faire en sorte que l'hostie tombe. Donc on ne dit pas Amen, c'est le prêtre qui dit Amen. Bien, je traduis ces paroles que vous connaissez, mais pour nous arrêter un petit peu. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle. C'est une répétition de l'Évangile. C'est un souhait, c'est une prière. Et quand on communie, il y a une prière qui accompagne cette réception de l'Eucharistie. Comme c'est beau. Et dans le nouveau rite de la messe avec la communion, qu'est-ce qui est dit? Corpus Christi. On va dire, on va quand même pas pinailler sur les termes, c'est la même chose. Mais comme c'est sec, Corpus Christi, le corps du Christ, c'est vrai. Mais il n'y a pas cet accompagnement, cette prière, ce souhait, cette bienveillance, cette bienfaisance, Corpus Christi. C'est très froid comme prière, comme annonce le corps du Christ. Bien sûr, c'est le corps du Christ. Mais la prière que le prêtre adresse à celui qui communie dans la Sainte Messe de toujours, quel baume, quelle charité, quel accompagnement, non seulement pour maintenant, mais pour la vie éternelle. Garde ton âme pour la vie éternelle. Il faut garder notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on garde notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de doute que, en retour, notre Seigneur Jésus-Christ nous garde. L'un et l'autre, on garde Jésus-Christ par la vertu, par toutes les vertus chrétiennes, par notre charité, nos vertus de foi, d'espérance, de charité, etc. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en retour, nous garde pour la vie éternelle. Ce n'est pas qu'un détail, c'est toute une vie qui est véhiculée par la liturgie. La liturgie est une école. Une école qui nous conduit peu à peu, pas à pas, à la sainteté. À la sainteté. Comme c'est important. Je voudrais terminer ces quelques mots par la lecture de la préface du Saint-Sacrement. Saint Thomas d'Aquin résume toute la doctrine qu'il a élaborée dans ses hymnes, dans les matines et tout l'office du Saint-Sacrement en quelques paroles. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, le Tout-Puissant et Éternel, par le Christ notre Seigneur, le Pontife éternel et véritable, le prêtre unique exempt de la souillure du péché qui, lors de la dernière scène, institua le sacrement du sacrifice éternel. prêtre et victime, il s'offrit lui-même et prescrivit de renouveler cette offrande. Sa chair immolée pour nous, quand nous la mangeons, nous fortifie, et son sang répandu pour nous, quand nous le buvons, nous purifie. C'est pourquoi, nous unissant aux anges et aux archanges, au trône et aux dominations, à toute la phalange des armées célestes, nous chantons l'hymne de votre gloire en disant sans cesse « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Voyez, saint Thomas résume cette belle doctrine juste avant de que le prêtre le consacre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayons foi, mes frères, dans ce grand sacrement, le sacrement de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrement pour la vie éternelle. Voyez, je le répète, pour que ça rentre bien dans nos intelligences, dans nos mémoires et nos cœurs surtout, ce sacrement est un accompagnement pour notre chemin jusqu'à la vie éternelle. On a besoin de cela. Dans ce monde qui méconnaît notre Seigneur Jésus-Christ, davantage encore, qui le méprise, qui piétine notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'adorons. Et nous voulons magnifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez, pour terminer, une petite histoire. La fête de Dieu avec le Saint-Curé d'Ars. Quelque temps avant la fête de Dieu, un monsieur vient se confesser à Ars, comme tant de personnes qui venaient se confesser. Et le curé d'Ars voit dans le pénitent qu'il avait un énorme défaut, le respect humain. Alors, il l'interroge et lui dit: « Cher monsieur, habitez-vous à la campagne ou dans une ville ?» Et le monsieur lui répond: « J'habite dans une ville assez importante. » Le curé lui repose une question: « Êtes-vous connu dans cette ville ?»« Oh oui, bien sûr. J'ai une position assez importante dans la ville. » »« Très bien. Comme pénitence, vous réciterez les actes de foi, d'espérance et de charité. Et puis, ce n'est pas tout. À la fête de Dieu, donc aujourd'hui, il y a quelques années, il y a plus de 200 ans, à la fête de Dieu, vous allez vous mettre très proche du dé, juste derrière le dé. Et voilà. Le monsieur se dit: oh là, là, le curé d'Ars, il m'a bien coincé. Tout le monde me verra. Donc il le dessuie assez froide, bien, malgré le temps chaud. Et l'histoire raconte que le soir de cette fête Dieu, l'homme était transi de froid, et a même été malade par la suite. Tellement il a pris sur lui, par la crainte, tout le monde me verra. Effectivement, tout le monde m'a vu. Mais par la suite, les amis de ce monsieur disent: vous étiez catholique? On ne le savait pas. Venez dans notre confrérie du Saint-Sacrement, etc. Et ce monsieur ne s'est pas dérobé. Et plus tard, il dira: quel grand bien le curé d'Ars m'a fait. Il n'a pas donné une pénitence banale. Bien sûr, les trois actes, mais ça ne change rien. Ça peut ne rien changer. Parce qu'on dit ces trois actes à la maison, et après ça, incognito, on continue sa vie comme si de rien n'était. Mais là, il a fallu qu'il montre sa foi. Acte public. Il faut que Jésus règne. Il règne, bien sûr, mais il veut régner aussi par ses fidèles. Par ses fidèles. Demandons au bon Dieu d'être des chrétiens fervents, mais pas uniquement fervents, des vrais chrétiens. On ne porte pas son drapeau dans sa poche ou son chapelet bien au fond de sa poche, bien calé et qui ne sort jamais. Soyons chrétiens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande et en retour, comme Jésus-Christ est bien fidèle, il nous aime bien plus que nous l'aimons, il nous donnera toujours davantage de grâce pour lui être fidèle jusqu'à la mort. Vive le Christ, roi, roi de nos âmes. Vive la fête du Saint-Sacrement, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.